Martin Luther raconte que lorsqu'il était dans son couvent, il était préoccupé par le fait qu'il ne se sentait jamais à la hauteur de ce que Dieu lui demandait. Il était préoccupé par le fait qu'il tombait dans le péché. Alors, pour compenser tous ses manques, Luther se martyrisait, se flagellait jusqu'au sang. Il n'était pas le seul d'ailleurs à faire ça, beaucoup d'autres le faisaient. C'était la pratique. Et lui s'y soumettait régulièrement, assidûment, pour infliger à son corps toutes les sévices possibles, en compensation du mal qu'il avait fait, en compensation de cet état d'insuffisance qu'il ressentait par rapport à ce que Dieu lui demandait. Il s'est maltraité, il a fait des pèlerinages, il a fait des pénitences. Il est allé à Rome, il a monté à genoux l'énorme volée d'escalier qui montait à l'église. Et à mi-chemin, il a regardé ces gens qui avec lui montaient, priaient, saignaient de leurs genoux pour monter les escaliers. Et s'il dit, il y a là quelque chose qui ne marche pas. Luther a recherché dans les Écritures comment Dieu nous sauve. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens, et vous êtes peut-être aussi de ceux-là, qui se posent des questions et qui sentent en eux ce manque constant, qui ont l'impression de n'être jamais assez bon pour Dieu, de ne pas avoir atteint ce niveau que Dieu réclame d'eux, de ne pas être assez bon pour que Dieu les accepte ou les reçoive. Alors, de ce sentiment peut naître plusieurs extrêmes. Celui de s'imposer une vie chrétienne extrêmement dure, de vouloir être parfait dans tout ce qu'on fait et de penser y arriver. Ou bien de dire, de toute façon, puisque je n'y arriverai pas, au fait, ce Dieu de la Bible, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu d'amour. Ce Dieu bon va sauver tout le monde. Il ne va détruire personne. C'est un bon Dieu. Donc, il n'y a pas besoin d'être si bon que ça. On fait ce qu'on peut, après tout. Et il sauvera tout le monde, le bon Dieu. On peut avoir ce sentiment que Dieu nous demande quelque chose d'inaccessible, quelque chose d'impossible. Un Dieu beaucoup trop exigeant. Et il y a dans les Écritures certains passages qui nous conduisent peut-être à penser cela si on ne lit pas les autres passages qui vont avec. Et j'aimerais vous proposer de lire un passage qui, dans ce sens, peut nous induire en erreur aussi, mais qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. J'aimerais lire avec vous à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Première épître de Pierre, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 13. Il est écrit ceci. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Et lorsque l'on lit cela, on se dit, voilà, Dieu me dit qu'il est saint, qu'il est sans péché et il me demande d'être aussi saint que lui. Comment vais-je jamais y arriver? Ce texte d'ailleurs est une citation de l'Ancien Testament. Nous pouvons le relire dans le livre du Lévitique, où je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant, au chapitre 19. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, se retrouve le même appel de la part de Dieu. Lévitique, chapitre 19, dès le verset 1er, il est dit ceci. Lévitique, chapitre 19, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Et dans la suite de ce chapitre, on découvre une répétition des commandements de Dieu. Et lorsque l'on lit cela, sans aller plus loin, on se dit, voilà, pour être saint, il faut pouvoir être capable d'obéir parfaitement à tous les commandements de Dieu. Mais qui peut faire ça? Comment y arriver? J'aimerais regarder avec vous ce matin un certain nombre de passages des Écritures pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous lorsqu'il nous dit cela. Dans ce même livre du Lévitique, quelques chapitres plus tôt, chapitre 11, se retrouve la même expression. Dans un contexte intéressant, Lévitique 11 est connu pour être le chapitre où est expliquée la différence entre les viandes pures et les viandes impures. Et les différentes caractéristiques sont données dans ce chapitre. Lorsque vous arrivez vers la fin du chapitre, il est question d'une dernière caractéristique de viande impure, c'est-à-dire les reptiles. Et il nous est dit au verset 44, au verset 43, « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez, vous serez saints car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » On est étonné de trouver cet appel de Dieu en rapport avec la distinction entre les viandes pures et les viandes impures. Dans le contexte, il y a ici quelque chose d'intéressant. Cette formule « Soyez saints car je suis saint » se trouve ici associée au serpent. Non seulement pour ne pas manger la viande des reptiles, mais ne vous souillez pas avec ces reptiles-là. Et il est clair dans les Écritures, le serpent, c'est une image de Satan. C'est ainsi d'ailleurs qu'il se présente dans le jardin d'Éden, au travers de cet animal-là. On comprend ici que dans ce chapitre et dans ce verset, le contexte s'élargit énormément et Dieu est en train de dire « Oui, il y a les viandes pures et impures, tenez-en compte. Mais n'oubliez pas qu'au-delà de cela, le serpent, c'est celui dont vous devez vous garder absolument. » Il y a donc dans cet appel « Vous serez saints comme je suis saint » un appel en même temps à s'éloigner de celui qui est impur, le serpent, et de se rapprocher de celui qui est pur, le Créateur. Ainsi, cet appel de Dieu prend des dimensions un peu différentes. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous connaissez ce passage dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 et au verset 48, que l'on a souvent associé à cette demande où Jésus dit « Soyez parfaits comme votre céleste, Père céleste est parfait. » Et en associant les deux, on s'est dit « Mais voilà, Dieu me demande d'être parfait. » Et dans notre esprit, parfait, c'est-à-dire comme Dieu, absolument parfait, sans tache, sans péché, sans rien de mal. Et nous nous sentons découragés parce que nous réalisons à quel point nous sommes loin d'atteindre l'objectif. Un autre passage dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 36, prend une formule un peu semblable qui peut peut-être réconforter certains ou nous permettre, si l'on veut, de contourner la difficulté. Et dans cet Évangile, au chapitre 6 et au verset 36, Luc rapporte des paroles de Jésus qui dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. » Et on va dire, « Ah, ben oui, dans ce cas-là, il suffit que j'aime, et puis j'aime tout le monde, et puis voilà, c'est bon, c'est parfait, ça suffit. » C'est vrai que Dieu demande de nous cette miséricorde, cet amour-principe. Mais je ne voudrais pas ce matin partir avec vous dans une exploration de ce sujet de la perfection chrétienne que certains voient dans le sens d'une perfection absolue. J'aimerais partir dans la découverte de ce que ce terme signifie en particulier dans l'Ancien Testament, d'où il est issu, pour comprendre ce que Dieu nous demande à nous aussi, alors que cette invitation est répétée dans le Nouveau Testament. Saint. Que veut dire saint? Nous avons fait de ce mot quelque chose d'un peu particulier. Nous avons, dans la compréhension traditionnelle, reçu ce mot comme indiquant un plafond auquel qu'il faut atteindre, un sommet à atteindre, un objectif précis qu'il faut vraiment atteindre. Si on ne l'atteint pas, ça ne va pas. Si on l'atteint, c'est parfait. Maintenant, dans la parole de Dieu, ce mot a un sens un peu particulier et différent de celui que l'on a forgé avec le temps. Le mot saint et les dérivés qui ont été construits à partir de là prennent plutôt le sens de mis à part. Mis à part pour un usage sacré. Saint, mis à part pour un usage sacré. Et je vous propose de regarder dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître aux Corinthiens, un passage qui est intéressant parce qu'il utilise effectivement ce mot dans ce sens, nous montrant à quel point ce sens premier de mise à part pour un usage sacré est par là que la question commence. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, dès le début, Paul donne ici sa salutation à ceux à qui il écrit. Et il dit, dès le premier verset du premier chapitre, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Il dit ici, à tous les saints qui sont dans l'Achaïe, c'est-à-dire une partie de la Grèce. Maintenant, lorsque vous lisez la première épître de Paul aux Corinthiens, lorsque vous lisez la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, vous n'avez vraiment pas l'impression que les membres de cette Église sont des saints. En tout cas, pas dans le sens traditionnel, habituel, dans lequel nous employons ce mot-là. Et pourtant, l'apôtre Paul, qui n'a pas d'ailleurs écrit que deux lettres à cette Église tant elle avait besoin d'être reprise, dit « Vous êtes des saints ». Ce qui nous permet de comprendre que Paul l'entend d'une manière différente. Ces gens sont saints, non pas en fonction de leur comportement, mais en fonction du choix qu'ils ont fait d'appartenir à Jésus-Christ. Ils sont mis à part par leur appartenance à Christ pour un usage particulier, pour un usage sacré qui est la propagation de l'Évangile. Paul ici ne tient pas compte du comportement de ces gens. Il tient compte du choix qu'ils ont fait, qui fait d'eux des gens à part des autres. Non pas dans le comportement, mais dans le choix qu'ils ont fait, dans leur appartenance à Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il va s'adresser à eux, vous les saints, qui sont dans toute l'Achaïe. Saints, mis à part pour un usage sacré. Et ainsi, si vous me permettez, j'aimerais prendre un exemple contemporain fort simple. Lorsque nous pratiquons la Sainte Cène, nous faisons le lavement des pieds. Pour le lavement des pieds, nous avons dans les armoires ici au sous-sol de l'église des bassins dans lesquels on va mettre l'eau pour le lavement des pieds. Vous les avez utilisés régulièrement. Eh bien, dans le sens purement biblique, ces bassins sont saints. Ils ont été achetés dans un magasin, comme tous les autres. Ce sont des bassins qui sont utilisés par les ménagères pour leurs travaux quotidiens. Ce sont les mêmes. Mais ces bassins que nous utilisons pour la Sainte Cène sont saints, parce qu'ils ne servent qu'à cela. On ne les emploie pour rien d'autre. Dans ce sens-là, ils ont été mis à part pour un usage sacré. Ils sont saints. Pas dans le sens magique. Le plastique ou le métal dans lequel ils sont faits est exactement le même que celui des bassins que vous utilisez dans vos maisons. Et le fait de laver vos pieds dans ces bassins ne va pas vous donner des vertus particulières ou vous pardonner vos péchés parce qu'ils sont magiques. Mais ils sont saints parce qu'ils ne servent qu'à cela. Ainsi, nous pouvons devenir saints. Dieu est saint. Dieu est saint parce qu'il est totalement différent. Il y a dans le texte d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 55, un passage qui nous dit exactement la même chose, mais en des termes inhabituels. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 55, au verset 8, vous connaissez ce passage où Dieu, s'adressant au peuple, dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans ce même chapitre, il rappelle au peuple que vraiment, ils ont abandonné la voix de Dieu. Ils sont redevenus comme les autres. Et Dieu leur dit, il n'y a plus de point commun entre vous et moi. Vos pensées et nos pensées n'ont rien de commun. Dieu, c'est ce Dieu saint qui est totalement différent de nous, pécheurs. Entièrement différent. Tout autre. Mais qui va accepter de devenir tout semblable à nous en Jésus-Christ. Dieu est saint, et nous sommes invités à devenir aussi comme lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, revenons dans le livre du Lévitique au chapitre 20, où se trouve là un passage intéressant et qui va nous guider dans notre recherche. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Lévitique chapitre 20, verset 26. Il est écrit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et nous retrouvons là le même sens, où Dieu dit, je suis saint et vous serez saints. Comment? Il l'explique en fait dans le texte en disant, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Et là, le mot saint prend tout d'un coup une signification bien différente. Nous pouvons être saints parce que Dieu nous a séparés et appelés à lui appartenir, appelés à être sa propriété. D'autres passages dans l'Ancien Testament transmettent cette même notion. Regardez dans le livre du Deutéronome au chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. La même idée est transmise et j'aimerais le lire avec vous au verset 6. Deutéronome, chapitre 7, le verset 6. Il est écrit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu t'a choisi. Pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. La même notion est ici. Vous êtes un peuple saint. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a choisi, il vous a séparé, il a voulu que vous soyez sa propriété. C'est cette même notion, non pas d'avoir le désir d'atteindre un sommet particulièrement élevé qui dépasse les autres, mais d'appartenir à Dieu parce qu'il nous a mis à part. Un autre passage dans le livre de l'Exode au chapitre 19 rappelle la même notion. Exode, chapitre 19, et le contexte est intéressant. Vous vous souvenez que le chapitre suivant va nous présenter les 10 commandements. Et dans ce même contexte de la présentation des commandements de Dieu à ce peuple, Dieu va lui parler. Au verset 5, il est écrit, Exode, chapitre 19, verset 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Vous remarquez que dans ce contexte, on retrouve la même chose que ce que l'on avait dans le texte de l'apôtre Pierre. Il est question des commandements, de l'obéissance, de l'alliance et cette invitation à être saint, car Dieu lui aussi est saint. Un dernier passage que nous avons lu partiellement tout à l'heure dans le livre de Jérémie va nous aider à comprendre le sens de cet appel de Dieu. Jérémie chapitre 11, dès le verset 2. Vous remarquerez que dans ce contexte-là encore, les mêmes notions se retrouvent. Comme attachées les unes aux autres, allant ensemble, ne pouvant être séparées. Jérémie chapitre 11, verset 2 dit « Écoutez la parole de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix, faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères. Je leur donnerai un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. » Dans le texte de Pierre que nous avons lu en commençant, vous vous souvenez qu'il invitait à se préparer au retour de Jésus. En attendant la venue du retour de Jésus, soyez saints dans votre conduite. Et ici, il y a la promesse de la terre promise. Dans cette perspective, une alliance. Et dans cette alliance, vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur nous appelle, comme lui est saint à être saint, il nous appelle d'abord à lui appartenir. Comment est-ce que nous pouvons appartenir à Dieu alors? Oh, c'est très simple. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons que ce lien, cette alliance créée avec Dieu, elle est faite par le baptême. Et par le baptême, je crée avec Dieu ce pacte par lequel je lui appartiens et il m'appartient. C'est une alliance. C'est une alliance d'ailleurs qui est illustrée dans les Écritures par le mariage, montrant à quel point cette alliance est réciproque. Maintenant, vous avez remarqué, il est dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu a choisi de faire de nous, ses enfants, son peuple. Dieu a choisi chacun comme étant sa possession. C'est une chose. Vous serez mon peuple, pas de problème. Le problème surgit maintenant de notre côté pour savoir si lui est notre Dieu. Autrement dit, la question est de savoir si nous avons répondu à cette démarche, à cette initiative de Dieu, de nous recevoir comme ses enfants, sa possession. Ainsi, il y a deux phrases qui semblent aller ensemble. Soyez saints, comme je suis saint, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Il y a deux dimensions à chaque fois. Maintenant, cet appel de Dieu à ce que nous lui appartenions est une notion que le monde d'aujourd'hui n'aime pas recevoir. Parce qu'elle implique un engagement. Elle implique un abandon de soi. Et nous n'aimons pas ça. Si vous voulez aujourd'hui avoir du succès lorsque vous offrez quelque chose, il faut que vous écriviez en grand sur votre produit, sans aucun engagement de votre part. Et là peut-être, vous aurez quelqu'un qui va regarder pour voir si par hasard c'est une proposition intéressante. Sans aucun engagement de votre part. Et on n'aime pas aujourd'hui s'engager On n'aime pas s'engager non plus envers le conjoint. On n'aime pas se lier trop des fois qu'on fasse une rencontre plus intéressante. On n'aime pas non plus s'engager dans l'église parce que si par malheur je trouve une église avec des gens plus sympathiques que ceux-là, je serai coincé dans celle-ci. On ne veut pas s'engager dans notre entreprise parce que si elle coule, je veux pouvoir sortir mes billes de cette affaire-là. On ne veut pas s'engager. Sans engagement de votre part. Ok, alors je viens sur la pointe des pieds. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, je peux sortir, je peux me sortir de là. Le problème, c'est que Dieu nous dit, pas d'alliance, pas d'engagement. Pas d'engagement, pas d'appartenance. Pas d'appartenance, pas de salut. Vous connaissez ce passage où l'apôtre Paul rappelle cela aux chrétiens de Corinthe, justement. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. L'apôtre Paul rappelle à quel point l'appartenance est une nécessité pour le salut. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. Il est écrit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Le fait de découvrir cela peut être une source de panique pour beaucoup de gens d'aujourd'hui qui se disent « Moi qui croyais être en pleine possession de mon avenir et de mes moyens et de moi-même, voilà que j'ai un Dieu qui domine sur moi. » Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et il ajoute « Il y a une raison à cela. Vous avez été racheté à un grand prix. » Et nous connaissons le prix par lequel nous avons été rachetés, Jésus-Christ. Est-ce que ça vous gêne d'appartenir à un Dieu qui est prêt à payer ce prix-là pour que nous lui appartenions? L'appartenance se base généralement sur l'une des deux choses suivantes, le lieu ou des personnes. Ainsi, les États dans ce monde ont choisi les uns une solution ou les autres l'autre pour donner leur passeport à leurs citoyens. Ainsi, dans certains pays, on va donner le passeport de ce pays à tous ceux qui vont naître sur son sol. C'est une appartenance par le lieu. D'autres pays ne vont pas vous donner un passeport parce que vous naissez là, ils vont vous laisser avoir le passeport de vos parents. Ceux qui vous ont donné la vie. S'ils sont étrangers dans ce pays, vous serez étrangers aussi. Et vous aurez le passeport des mêmes personnes qui ont été là à l'origine de votre vie. Suivant dans quel pays vous allez trouver soit une philosophie, soit l'autre, par rapport à l'appartenance. Dans la Bible, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas le lieu ou les personnes, ce sont les deux. C'est intéressant de remarquer, souvenez-vous, lorsque Caïn a été maudit par Dieu, souvenez-vous de quelle malédiction il a été maudit. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, il est dit, Dieu s'adressant à Caïn pour le maudire, « Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu n'as plus de lieu, tu n'as plus d'appartenance. » Tu n'appartiens plus à rien ni à nulle part. En d'autres termes, et l'on comprend la panique de Caïn, tu es perdu. Tu n'appartiens plus. Tu n'appartiens plus à rien. Tu es errant et vagabond. Voilà la malédiction. La malédiction de Caïn, tu n'as plus de place. Tu es errant. Tu es perdu. Par contre, et faisant l'opposition avec ça, Nous lisons quelques chapitres plus loin dans le livre de la Genèse la bénédiction que Dieu va donner à Abraham. Regardons ce texte dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, nous allons lire le verset 8. Remarquez que dans les versets précédents, il est question de ce dont nous parlons. Il propose à Abraham une alliance. Et dans le cadre de cette alliance, Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 8, « Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » À Caïn, il dit, « Tu seras errant. » À Abraham, il dit, « Bénédiction, voilà, tu as un lieu et un Dieu. » Dans la Bible, l'appartenance se fait par les deux, par le lieu, par le Dieu. Et nous sommes, nous chrétiens, dans la même situation, où Dieu veut restaurer cette appartenance par le lieu et par la personne qu'il est lui-même. Après des siècles d'esclavage en Égypte, Dieu va faire sortir son peuple et va restaurer dans leur esprit cette appartenance au lieu et à la personne. Souvenez-vous, il va d'abord les emmener dans le désert, dans un non-lieu. Le désert, c'est nulle part. Ce n'est vraiment pas le lieu où tu t'attaches. C'est là qu'il va les emmener pour les attacher d'abord, non pas au lieu, mais à lui-même. Et il va les amener au Sinaï. C'est là qu'il va faire alliance avec eux. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et c'est une fois que cette alliance est scellée, une fois que cet attachement à la personne de Dieu est fait, qu'il va pouvoir les conduire dans la terre promise et leur donner le lieu qui leur appartient à perpétuité. Dieu va les attacher à lui-même et au lieu. Et nous sommes attachés à Dieu par la même chose. Nous sommes invités à être attachés à Dieu par Jésus-Christ, qui est celui qui a donné sa vie pour nous racheter. Et puis, avec ce rachat vient la promesse de la vie éternelle sur la nouvelle terre, sur une terre où le péché n'est plus. C'est le lieu que Dieu nous donne. C'est la raison pour laquelle, dans les Écritures, plusieurs images, plusieurs illustrations sont utilisées pour nous faire comprendre que nous n'appartenons pas à ce monde-ci. On va dire, par exemple, que nous sommes voyageurs, étrangers, ou encore ambassadeurs. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 20, il est dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. L'ambassadeur n'habite pas dans son pays. L'ambassadeur habite dans un autre pays auquel il n'appartient pas. En plus de cela, il n'appartient pas non plus au gouvernement du pays où il se trouve. Il appartient à un autre gouvernement qu'il représente. Il n'appartient ni au lieu ni aux personnes qui sont là, mais il est envoyé par un autre gouvernement, par un autre pays. Et dans les Écritures, il nous est dit, voilà, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Ce qui est une autre manière de dire, vous n'appartenez pas à ce lieu-ci et vous n'appartenez pas à ce monde-ci. Votre appartenance est ailleurs. Votre appartenance est à Dieu et au monde qu'il vous prépare à venir, à son royaume. Notre appartenance est ailleurs. Maintenant, lorsque Dieu me dit « Soyez saints, car je suis saint », j'entends que le Seigneur m'appelle, non pas à viser une cime inaccessible par moi-même, mais il m'invite à être sa possession. Il me dit, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu m'appartiennes. Est-ce que cette appartenance, elle est réciproque? Est-ce que tu peux dire, tu es mon Dieu? Alors évidemment, pour nous se pose la question de savoir, qu'y a-t-il donc dans notre vie personnelle qui met une entrave à cette appartenance totale et complète à Dieu? Qu'y a-t-il auquel j'appartiens qui empêche que l'appartenance numéro un soit avec Dieu? C'est difficile à dire, mais il y a un moyen de le savoir. C'est lorsque nous perdons ce à quoi nous appartenons. Le jour où nous perdons ce à quoi nous appartenons, nous réalisons que finalement, c'est vraiment à cela que nous appartenions, vraiment. Pensez à la fable de Lot. Les anges les ont sortis de Gomorre. Lot est sorti avec ses filles et sa femme. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Jamais. Lorsque vous sortez du péché. Elle est sortie, la femme de Lot. Mais son cœur est resté dedans. Elle a bien voulu marcher en dehors, physiquement sortir de la ville, accompagner sa famille. Mais elle s'est retournée vers le lieu où son cœur était, vers le lieu auquel son cœur appartenait. Et Dieu l'a laissée aller là. Ne vous retournez pas. Où est l'appartenance? Alors nous pouvons chacun rechercher dans notre existence s'il y a quelque chose auquel nous appartenons plus qu'à Dieu et qui va empêcher cette appartenance totale. Finalement, ce que nous sommes en train de rechercher, c'est à travailler sur la cause plutôt que sur les symptômes. En travaillant sur la cause, c'est-à-dire ce qui empêche le Seigneur de nous prendre comme sa possession complète, nous ne faisons en réalité que lui ouvrir la porte pour qu'il puisse enfin achever en nous l'œuvre qu'il y a commencée, nous faire grandir dans la sainteté, à sa ressemblance de nouveau. Ce sera lui qui va nous rendre saints. Il l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel au chapitre 36, il dit « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Je ne peux pas le faire, c'est lui qui va le faire. Mais est-ce que je lui appartiens pour qu'il ait les moyens d'accomplir cette œuvre-là? À qui est-ce que j'appartiens? Où est mon attachement le plus fort? À qui mon attachement est-il le plus fort? Où est mon appartenance? Dieu nous a déjà dit, vous êtes mon peuple. Est-ce que nous pouvons en particulier lui répondre de tout notre cœur? Tu es notre Dieu. Amen.